et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec des sons et du sens.
En direct du studio 511 et de la place Paulbert à Bayonne, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Philippe Duclos et David Federman.
Au sommaire aujourd'hui, jour de désarmement au Pays Basque et les Romanes nous font tout un cirque pour la journée mondiale des Tziganes.
Les gens qui soutiennent ce désarmement, ça va des militants basques au Parti Socialiste, au Vert, au Front de Gauche, aux gens de l'UDI, du Modem, des Républicains. C'est-à-dire, c'est vraiment tout le monde.
Vous avez vu, on a beaucoup de chats. Hein. Les gens disent qu'on les mange. Je leur dis oui, c'est vrai. Et maintenant, on en a un peu assez des chats. Maintenant, on commence à manger les chiens.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Une même date et deux journées. Ce 8 avril, le calendrier nous fait croiser deux histoires qui n'ont a priori rien à voir et qui pourtant devraient nous parler à nous autres, les Français. Parce que loin d'un roman national uniforme, elle nous raconte notre histoire rapiécée de taches, de brûlures et de morceaux dépareillés. Ce 8 avril est ainsi la journée internationale des Roms. Alors Charlotte Perry nous emmène dans le plus célèbre petit cirque de France, celui de la famille de Delia et Alexandre Romanes. Après des crânes rasés qui les ont agressés, ce sont aujourd'hui des riverains du 16e arrondissement encore qu'ils veulent faire déguerpir leur poésie. Autre moyen, me direz-vous, mais même finalité, certains de nos concitoyens n'aiment pas trop de couleurs dans leur grisaille. Mais ce 8 avril sera aussi une date historique parce qu'il marque peut-être la fin d'un conflit armé au Pays Basque et le désarmement unilatéral de l'ETA. C'est rare de nos jours. Voilà une organisation terroriste qui dépose les armes pour clore définitivement un long chapitre de violence. Et là, c'est sous l'égide de citoyens que cette page a été tournée, pas de nos gouvernements. Et ce sont ces artisans de la paix qu'Antoine Chao est parti nous faire entendre depuis Bayonne. Alors jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, basque, tzigane, français, joyeux 8 avril.
Antoine Chao, Charlotte Perry,
Guy Montil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Bayonne, ici Bayonne. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train.
Bayonne, samedi 8, 8 avril 2017, une grande date donc dans l'histoire du Pays Basque qui va certainement, on l'espère, voir le désarmement, la fin du conflit qui déchire ce Pays Basque. Et au terme de cette journée, on l'espère, ETA cessera d'exister en tant qu'organisation armée.
Presque 60 ans après sa fondation et des années de violence ayant coûté la vie à plus de 800 personnes, l'ETA s'engage à un désarmement total ce samedi 8 avril.
L'ETA a annoncé hier la fin définitive de 50 ans de lutte armée pour l'établissement d'un État basque indépendant.
Encore considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne, avait déjà renoncé en octobre 2011 à la lutte armée pour l'indépendance du Pays Basque et de la Navarre.
L'adieu aux armes de l'ETA qui, après 4 décennies de lutte armée, renonce à la violence. À ses origines antifranquistes, l'organisation nationaliste basque dit vouloir dépasser la confrontation armée et privilégier l'ouverture et le dialogue.
Indépendantiste.
Au Pays Basque français, attentat indépendantiste contre les symboles de l'État, contre des chefs d'entreprise.
C'est donc aujourd'hui qu'une page se tourne au Pays Basque. Alors Antoine, comment est cette journée à Bayonne ?
Alors, il y a beaucoup de monde qui converge vers la place Paulbert à Bayonne, Guy, dans le petit Bayonne, avec espoir mais inquiétude aussi. Alors c'est vrai, c'était jour de marché sur les bords de la Nive, il y a la foire au jambon qui se prépare pour la semaine prochaine, mais c'est surtout parce qu'on est le 8 avril qu'il y a du monde dans les rues de Bayonne, et tout se passe bien en plus. Le 8 avril, une date historique, une page se tourne aujourd'hui. Le 8 avril 2017, les artisans de la paix ont révélé, ce matin, l'emplacement des caches d'armes de Théa. 120 armes à feu, 3 tonnes d'explosifs, plusieurs milliers de munitions. Et ça y est, à l'heure où je vous parle, et après plus de 50 ans de lutte armée, commencée pendant la dictature franquiste, ETA s'est désarmée. L'arsenal de l'ex-groupe armé, donc, disséminé dans 8 caches sur le territoire français, est entre les mains des autorités françaises. Et ça, grâce aux artisans de la paix, sous le contrôle d'une commission internationale de vérification et avec 172 observateurs sur le terrain qui ont suivi toute l'opération. C'est un grand jour, donc, attendu depuis 5 ans, depuis que TEA avait annoncé et respecté un cessez-le-feu unilatéral en octobre 2011, après la conférence pour la paix d'Ayété. Alors depuis Bayonne, on va revenir sur le déroulement de ce processus de désarmement et sur les étapes du processus de paix à venir. Avec quelques-uns des acteurs, Jean-René Echeverry, dit Tchetch, et Gabi Mouesca, artisans de la paix, et il se trouve aussi ami de longue date. C'est l'adieu aux armes à Bayonne.
Le théâtre.
Le théâtre.
L'État.
Le théâtre.
Le théâtre.
Le théâtre.
C'est la folie.
Alors Tchetch, on se retrouve à Bayonne. Je dis qu'on se retrouve parce qu'on s'est croisé pour Alternativa à Paris, c'était en 2015. On s'est vu pour comme ça différentes actions que tu mènes avec tout un collectif citoyen ici, avec l'association BC. Mais aujourd'hui, c'est autre chose qui nous amène, c'est le processus de désarmement du Pays Basque que vous avez pris en charge. Quand je dis vous, c'est la société civile qui veut en finir avec 50 ans de conflit armé. Et c'est à votre initiative, hein, toi et quelques autres, qu'on a appelé les artisans de la paix, qui étaient donc à Luosoa le 16 décembre et qui ont été arrêtés ce jour-là parce que vous aviez commencé le processus de démantèlement de l'arsenal de TEA.
D'abord, en introduction, je dirais 80 ans, pas 50 ans, parce que depuis 1936, puis après 40 ans de dictature franquiste et après, du coup, l'apparition pendant cette dictature de l'organisation État et la lutte armée qu'elle a menée jusqu'à 2011, on a 80 ans de conflits violents sans interruption et donc une décision historique en 2011, État qui décida à la demande de personnalités et d'autorités internationales de cesser définitivement sa lutte armée, unilatéralement, sans condition ou contrepartie politique. Et là, on aurait pu croire que la situation se serait apaisée, que les choses se seraient passées de manière intelligente, que les deux gouvernements français et espagnols aurait entamé une voie de dialogue avec l'État pour permettre à cette situation de se terminer de manière organisée, ordonnée, digne. Et ça a été tout le contraire. En fait, depuis 2011, donc, et la fin de cette lutte armée, rien n'est fait pour apaiser les tensions qui existent. Et c'est là que nous, militants non-violents, du Pays Basque, mais également de Paris, puisqu'il y avait Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Il y avait Michel Berroco-Irigoyen, qui est un syndicaliste paysan, membre de la Confédération paysanne, qui l'a contribué à fonder. Et moi-même, donc, militant de BC, d'Alternativa, qui étions animés les trois par une trajectoire et une philosophie non violente, avons décidé de prendre nos responsabilités, de rentrer en contact avec l'organisation État, sa direction. Donc, évidemment, ce n'était pas des contacts publics, ça a été fait de manière très discrète et par intermédiaire. Et on a proposé à État que nous, on était prêts à prendre des initiatives qu'on assumerait à visage découvert pour le faire. Et du coup, l'organisation État délègue à la société civile, via nos trois intermédiaires, la responsabilité du démantèlement de son arsenal. Nous l'avons accepté. Et du coup, en décembre dernier, on a récupéré 15% de l'arsenal d'État. Et on a commencé une opération symbolique visant à neutraliser les armes, sans en empêcher l'identification judiciaire. Et là, vraiment, on a atteint une situation ubuesque, où une organisation armée voulait désarmer, et où les deux gouvernements l'ont empêché. C'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on ne connaît dans aucune autre partie du monde. Alors que l'organisation État, sous le contrôle d'une commission internationale de vérification, avait commencé un processus d'inventaire et de mise sous scellé de son arsenal, au lieu de l'aider ou au moins de la laisser faire, les polices françaises et espagnoles ont fait des opérations pour arrêter ces militants. Et du coup, on a été arrêtés par un assaut du raid de la police française, mais également espagnole, et mis en garde à vue.
Deux versions des faits s'opposent. Après l'opération policière contre l'ETA au Pays Basque la nuit dernière, des armes ont été saisies, 5 personnes interpellées. Madrid et Paris se félicitent du succès de cette opération. En revanche, les milieux nationalistes donnent une version très différente.
Un écologiste, un viticulteur, un agriculteur et deux journalistes. Des militants qui affirmaient vouloir accélérer le processus de paix en détruisant cet arsenal avant de le remettre aux forces de l'ordre. Une initiative plus que malheureuse.
Ceux qui ont été arrêtés à Loussoua, ce sont des faiseurs de paix. Eh bien, sont traités comme des criminels, alors qu'en réalité, ils sont en train de construire la paix en Pays Basque pour demain.
Les cinq personnes sont actuellement toujours en garde à vue pour s'expliquer face aux enquêteurs des services antiterroristes.
Là, il s'est passé quelque chose d'imprévu pour le gouvernement français, c'est que immédiatement la population de chez nous s'est mobilisée pour demander notre libération, pour dire mais ceux-là en fait font ça parce que vous assumez pas vous votre responsabilité, c'est-à-dire que c'est vous qui auriez dû faire ça. Et comme le gouvernement français a pas voulu s'impliquer dans ce processus de paix, n'a pas voulu aider cette organisation à désarmer, eh bien aujourd'hui des citoyens sont obligés de le faire. C'est pas normal, mais c'est pas de leur faute. Eux, au contraire, font quelque chose de bien. Et donc, dans les heures qui ont suivi, il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté à Bayonne. Et il y a eu 700 élus du Pays Basque Nord, c'est-à-dire côté français, avec la totalité des parlementaires, plus de la moitié des maires et tous les maires des grandes communes, les présidents de communautés d'agglos, etc., etc., qui ont rédigé une adresse au gouvernement français en soutenant notre démarche et en lui demandant de s'impliquer dans le processus de paix et dans le désarmement d'État. Et donc, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, mais qui était en fait normal, puisque ce qu'on faisait correspondait à une demande sociale majoritaire qui était exprimée depuis très longtemps et de manière la plus large possible, puisque ici, les gens qui soutiennent ce désarmement, ça va des militants basques au Parti Socialiste, au Vert, au Front de Gauche, aux gens de l'UDI, du MoDem, des Républicains. C'est-à-dire, c'est vraiment tout le monde.
Alors que le ministre de l'Intérieur, éphémère et maladroit de l'époque, Bruno Le Roux, avait annoncé que c'était un coup dur porté à ETA.
Oui. Ouais. Alors, il a eu un communiqué qui était vraiment ridicule et qui nous a beaucoup aidés parce qu'il nous a amalgamés à des terroristes de l'État. Alors que toute la population ici sait très bien nos parcours, nos idées, le fait qu'on défend au contraire une stratégie non violente, transparente et démocratique. Et du coup, ça, je pense que ça a aidé la mobilisation à prendre ce caractère massif parce que les gens étaient très choqués de ce communiqué du ministère de l'Intérieur, mais qui correspondait à leur ligne de défense, c'est-à-dire qu'eux devaient expliquer comment ça se faisait que eux n'avaient rien fait en 5 ans. Parce que nous, ce qu'on faisait et qu'on a réussi à faire en quelques mois, évidemment, le gouvernement français aurait dû et aurait pu le faire en 5 ans. Et donc, évidemment, la situation de Loussoua les mettait très mal à l'aise parce qu'elle pointait le doigt sur une contradiction assez incroyable de leur politique.
Liberté pour les artisans de la paix. C'est derrière cette banderole qu'ont défilé entre 3000 et 5000 manifestants dans les rues de Bayonne en soutien aux 5 personnes interpellées la nuit dernière.
La réponse aux propos du ministre de l'Intérieur et à l'opération de police menée hier en Pays Basque, la voici. 4000 personnes dans les rues de Bayonne cet après-midi. Tous demandent la libération des personnes interpellées.
Lorsqu'il y a incurie des États, eh bien c'est la société civile qui prend le relais.
Tu connais le nom du ministre de l'Intérieur ? Le ministre de l'Intérieur avait 10 jours, Bruno Le Roux déclarait que les 5 personnes arrêtées en plein happening médiatico-politique en pleine neutralisation d'une partie de l'arsenal de TA étaient eux-mêmes membres de l'organisation terroriste de TA ou en lien avec l'organisation terroriste de TA. Lundi 17 octobre 2011, Donosti se tient la conférence internationale de paix d'Aïété. On y déclare la paix au Pays Basque. La déclaration du lundi 17 octobre est dite déclaration d'Aïété, déclaration intégrale sur la paix au Pays Basque, déclaration présentée par l'ex-secrétaire général de l'ONU, prix Nobel de la paix Kofi Annan, l'Irlandais Gerry Adams, l'ex-premier ministre irlandais, l'ex-ministre français de l'Intérieur Pierre Jox, l'ex-première ministre norvégienne, l'ex-chef de cabinet de Tony Blair. Nous sommes venus au Pays Basque aujourd'hui car nous croyons qu'il est temps et aussi qu'il est possible de mettre un terme à la dernière confrontation armée d'Europe. 3 jours après la déclaration d'Aïété, l'organisation terroriste TA déclare cesser toute activité, le tout et de trouver comment et à qui elle rendra les armes. 5 ans après la conférence d'Aïété et la déclaration du même nom, 5 ans après le 17 octobre 2011. Ni l'État français ni l'État espagnol ne souhaitent recevoir des mains de l'ex-organisation terroriste ETA les armes qu'elle possédait, 5 ans après la conférence d'Aïété et la déclaration du même nom, 5 ans après le 17 octobre 2011. La police aime à trouver, cache, arme, chef, 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 numéro 1, chef, supposé, chef, présumé, se, félicite, importante, saisie, chef, présumé, coup dur, organisation, terroriste, se félicite, bref. Jusqu'au nouveau, il a 10 jours, ministre de l'Intérieur, jusqu'au nouveau, Bruno Leroux, ministre du Premier, ministre Cazeneuve du président François Hollande qui se félicite, coup dur, membre de TA en lien avec, bref. 5 ans après la conférence d'Aïété et la déclaration du même nom, 5 ans après le 17 octobre 2011. Des centaines de personnes devant la maison de Lousoa, un pays épatant. 4000 personnes le lendemain, 4000 dans les rues, un pays épatant. 4000 pour dire, on les soutient eux, les faiseurs de paix, qui neutralisaient ouvertement, médiatiquement, une partie des armes de TA que TA voudrait bien remettre à qui ne voulait pas jusque-là les recevoir. Un pays épatant.
Je suis donc Gabi Mosca, j'ai 55 ans. J'ai été militant basque pendant ma prime jeunesse, ce qui m'a valu de passer 17 ans derrière les barreaux dans l'État français. Et au sortir il y a 15 ans de ça de prison, bien, j'ai eu diverses responsabilités. Entre autres, j'ai été président de l'Observatoire international des prisons. Et depuis 5 ans, bien, dans le cadre du processus de paix, bien, je suis revenu définitivement pour essayer d'apporter un petit peu de ma connaissance, en tout cas beaucoup de ma détermination, à me joindre aux efforts de paix au Pays Basque.
Alors, comment s'appelle cette place, Gabi ?
Ici, on est à Saint-André, j'allais dire la Mecque de l'aversalisme, du patriotisme basque au Pays Basque Nord, où il y a évidemment beaucoup de bars, de lieux de rencontres pour deviser et parfois pour s'alcooliser aussi.
Et c'est quoi la gauche aversale, alors l'aversalisme ?
L'aversalisme, c'est la traduction de patriotisme. Hein. Nous sommes ce qu'on appelle la gauche aversalée, c'est-à-dire que nous sommes des patriotes basques, mais qui avons une vision de la société de demain qui est basée sur des valeurs de fraternité, de partage, de solidarité, enfin, ce qu'on peut appeler des valeurs de gauche.
Alors, sur cette place, il y a une grande bâtisse typiquement basque, hein, avec les volets rouges, le rouge basque. C'était l'ancien hôtel des...
Hôtel des Basques.
Hôtel des Basques.
Voilà, ça porte bien son nom.
Alors, une grande banderole, hein, une grande bâche peinte, 8 avril, Bayona, artisan de la paix, et après, c'est écrit en basque.
Nous sommes tous des personnes en faveur de la paix. C'est-à-dire que l'invitation qui est faite à tout le monde depuis des mois et des mois, c'est que... Toutes et tous, quelle que soit notre situation sociale, quel que soit notre pays d'origine, nous sommes des acteurs et des actrices du processus de paix. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu le conflit, il y a eu beaucoup de gens qui sont restés à regarder les événements se passer, qui sont restés dans une neutralité la plus parfaite, et que les acteurs directs du conflit, eh bien, c'était une minorité, forcément. Aujourd'hui, quand on parle de la résolution du conflit, rester spectateur, ça ne marche pas. Aujourd'hui, la paix, c'est l'affaire de toutes et de tous. Et donc, ce qui est aujourd'hui en train de se construire, c'est justement une accumulation de forces vives de ce pays, et d'ailleurs au-delà, parce que la paix au Pays Basque n'est pas un problème basco-basque, j'allais dire, c'est un problème français, espagnol, c'est un problème européen aussi. Et nous travaillons donc au rez-de-chaussée de cet hôtel mythique de Bayonne. C'est un bureau qui regroupe 4 associations qui sont de près ou de loin toutes sur la thématique des prisonniers et des exilés. Aujourd'hui, au Pays Basque, une des questions prégnantes, au-delà de la question du désarmement, bien évidemment, c'est la situation des prisonniers et des réfugiés. Et nous, dans ce bureau, nous sommes des permanents du mouvement qui s'intéresse particulièrement au sort des prisonniers et des exilés.
Alors, c'est justement à Arles, hein, qu'on s'est rencontrés, Gabi, à la maison centrale d'Arles, où je menais des ateliers de radio et où donc je t'ai vu sortir. Hein. On a partagé avec toi le jour de ta sortie de prison de cette maison centrale d'Arles. Enfin, c'était en 2001. Ouais.
Oui. Oui, oui, c'était un temps, j'allais dire, lointain. Ça ne fait que 15 ans, mais quand j'ai connu 17 ans la prison, et quand aujourd'hui je sais l'importance du temps qui passe et du temps où on peut être acteur de sa propre vie, comme je le suis depuis 15 ans, je ne cesse de penser chaque jour à ces milliers, dizaines de milliers, 70 000 personnes détenues en France aujourd'hui, qui, elles, sont comme des tas de viande dans 9 mètres carrés et qui ne peuvent rien faire de leur propre vie, et cela me peine chaque jour.
Alors, une grande journée historique, hein, ce samedi 8 avril, c'est effectivement une étape dans un processus de paix. Et une des étapes à venir, ce sera régler la question des prisonniers.
Oui, en toute logique, et aujourd'hui tous les acteurs majeurs de cette résolution de conflit au Pays Basque s'entendent sur le fait qu'effectivement, le 8, on règle la question de l'armement de l'ETA, mais dès le 9 au matin, tous les regards seront posés sur la question des prisonniers et des exilés. Une partie des conséquences du conflit, parce qu'il y a aussi évidemment les victimes qu'il va falloir évoquer, toutes les victimes. C'est en tout cas dans la logique de la résolution dans laquelle aujourd'hui s'inscrivent beaucoup de forces au Pays Basque.
Et en plus, TF1, ils sont passés.
Oula ! Est-ce qu'ils ont parlé du 8 avril sur TF1 ?
Non.
Aujourd'hui, on a choisi aussi de consacrer cette séquence que vous attendez tous les jours à l'attachement très profond des Basques à leurs chants régionaux.
La page de violence se tourne donc au Pays Basque. Mais si j'ai bien compris, Antoine, c'est maintenant qu'il va falloir écrire un nouveau chapitre. Et là, c'est pas plus simple, nécessairement. Antoine ?
Alors, il y a beaucoup de monde sur la place, justement, avec de l'espoir, mais aussi de l'inquiétude. De l'inquiétude pour la suite du processus de paix.
Il faudra donc du temps avant de savoir si ce 8 avril rentrera dans les livres d'histoire. Mais en attendant, c'est un autre 8 avril qu'on va aller célébrer maintenant. Pas très loin de la maison de la radio, au coin du 16e arrondissement. C'est le 8 avril de la Journée mondiale des Roms.
Une occasion d'aller faire un tour au cirque Romanès, le dernier cirque tzigane d'Europe. Installé depuis 2 ans sur un tout petit terrain dans le 16e arrondissement, la tribu Romanès continue inlassablement de résister, malgré les attaques, les vols, les dégradations et les innombrables procès dont ils font l'objet. Car Alexandre Romanès est un homme peu ordinaire. Tour à tour dompteur de fauves, équilibriste, concertiste de lutte baroque, mais aussi poète et ami de feu Jean Genet. Il est le seul tzigane à avoir reçu la Légion d'honneur. Une distinction dont il se sert, dit-il, pour touiller son café. Car les décorations et les flonflons ne l'intéressent pas. Et est-ce en cette journée internationale des Roms, c'est de la possibilité même pour la culture tzigane de continuer à exister dont nous allons parler. Entre caravanes, brinque-ballantes et spectacles endiablés, direction donc le square Parodi à la rencontre d'Alexandre Romanès et de sa femme Delia la Terrible.
Dun 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 d
Cirque Romanes, Cirque Zigane. Bonjour.
C'est avec vous qu'on a rendez-vous?
Oui, c'est avec moi, je suis en retard, je suis désolée.
Non, ne vous inquiétez pas.
Delia doit être là.
D'accord.
Demandez-la, elle est un petit peu plus loin.
Merci, j'arrive. D'accord. Traverse une allée pleine de caravanes, blanches et vertes. Une dame qui cuisine. Bonjour, je cherche Delia.
Delia, tu où est-ce que tu as une caravane?
Dans la caravane? Merci.
C'est parti!
Bonjour.
Oh, j'arrive. Comment ça va?
Bonjour. C'est votre caravane?
Oui, tu vois, c'est ma caravane.
Ah, avec le lit au fond, des gros meubles en bois.
Elle a bougé il n'y a pas longtemps. Elle n'est pas droite, en fait. Regarde l'armoire, ça se ferme pas.
La porte, elle ouvre, elle tombe. Elle est un peu bancale, quoi.
Oui, il faut qu'il me la mette sur le décal.
Ça, c'est votre bureau de femme d'affaires avec vos deux ordinateurs, vos téléphones.
Oh, femme d'affaires, je ne sais pas. Je ne suis pas une femme d'affaires. J'essaie de me débrouiller, tu vois.
Vous êtes chanteuse à l'origine?
Ah, moi je suis, oui, chanteuse et danseuse. Vous voulez que je vous chante juste une petite berceuse? C'est une prière pour mes enfants.
Ouais. Et je ferme la porte.
Je ne sais pas si elle ferme, hein. Ou pas. Au banina duc fericirea, tot cât ai vrea să trăiești. Dar nici fericire în viață, fără bani ai să o găsești. Haide, opa, mă!
Et ça raconte quoi?
Bah, ça parle de l'amour, ça parle de la vie, ça parle de mes enfants, et que le bonheur, c'est pas dans la richesse matérielle qu'on le trouve. Le bonheur, il est là, tout simplement. Et le bonheur, on se le crée dans la tête, on l'est ou pas. Le bonheur, ça se fabrique dans son esprit. On essaye.
On essaye.
On essaye de résister, de continuer. On essaye.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Alexandre Romanes. Nul n'est parfait. Nous sommes au Cirque Romanes. Peut-être qu'il va y avoir un spectacle, on ne sait pas. On ne peut pas savoir avec ces gens-là. Nous sommes comme ça.
Brigitte en boulot, c'est rare. Hein. Faut pas rater ça.
Allez, en avant. Avance. On va le faire en 2-3 fois. Avance. Encore. Hop. Faut pas descendre. Et là, on est encore droit ou pas?
Non, on n'est pas droit.
On va organiser tout le campement?
Non, mais on n'a pas vraiment la place. Hein. On fait au plus facile. Au plus rapide.
Trouvez des planches comme ça, là.
Tous les gens qui sont là, c'est...
La famille.
C'est la famille. La
famille de Delia.
Ils viennent tous de Roumanie.
Oui.
Et tous, ils travaillent dans le Cirque Romanes.
Oui, tous, oui.
Tous des artistes.
Ah oui, oui. On n'a pas de dentiste, on n'a pas d'avocat, on n'a pas d'architecte. Nous n'avons que des jolies choses.
Attention, on y va, là? Vas-y, en avant. Recule. Encore un peu. Encore. Un petit peu, Gisèle. Un petit peu. Stop. Le frein.
T'as l'air sérieux, hein?
Ouais.
Ne jamais oublier qu'on est des nomades. Et il y a plein de gens qui l'oublient. Ou qui veulent plus en entendre parler. Même chez nous, il y en a qui savent plus. Heureusement, pas tout le monde chez nous. Mais le nomadisme est combattu partout aujourd'hui. Partout dans le monde. Plus personne n'en veut. Faut relever encore, Aline. Vas-y, t'es pas droit. Lève encore. Maille. Encore. Encore. Ah, voilà, ça c'est mieux. Voilà. Bon, là, il faut, faut mettre les béquilles, le mettre droit. Je pense que ça devrait aller. Non, le nomadisme est combattu partout.
Ça fait peur.
Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, partout. Ben oui, parce que notre culture ne peut pas vivre dans la sédentarisation, ça c'est sûr. Il y a des gens qui se disent des spécialistes, mais qui disent beaucoup de bêtises en fait. Notre culture, elle est dans le nomadisme. Vous savez qui a inventé l'expression « les gens du voyage » Moi je ne le savais pas, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est le poète François Villon.
Ah oui.
Oui, dans un poème, il dit « mes frères de misère, les gens du voyage ». Il pense aux gitans. C'est rigolo, hein?
Ouais.
Je me disais, tiens, c'est quand même une jolie expression. Nous, on ne l'utilise jamais. Hein. Même le mot « rhum », on ne l'utilise jamais. On dit « tzigane ». Notre vraie appellation, quand on est entré en Europe, c'était « tzigane ». C'était joli aussi, les gens du voyage. Il n'y avait qu'un poète pour trouver ça.
Moi, je croyais que c'était une catégorie administrative, « gens du voyage ».
Non, c'est le mot « rhum » qui est devenu... Une... Oui, on peut... En France. Mais en fait, pourquoi l'appellation « rhum » s'est imposée? Parce que... Au niveau de l'Europe, ils ne s'y retrouvaient plus. Manouche, bohémien, romanichel, gitan, tzigane. Alors, ils ont tout recoupé sous l'appellation Rome. Mais c'est une appellation administrative. Moi, je la récuse. Moi, je sais que quand on est entré en Europe à la fin du Moyen-Âge, on s'appelait les tziganes. Moi, je suis un tzigane français. Mais je suis un tzigane.
Tzigane, gitan.
Oui, alors, on me dit toujours, il y a des différences. J'ai dit, pas énormes. On a tous les mêmes défauts.
Lesquels?
Ah bah, demandez aux gens, aux sédentaires, il paraît qu'on a tous les défauts.
Tiens, pas plus haut.
Tiens, c'est la petite Christine. Attention.
C'est mon micro.
Elle est agile, hein. Elle veut tout attraper. Hein.
Ah, elle veut chanter.
Vas-y, chante. La 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 la
la. On va là-bas, on va manger.
On y va.
Mes deux belles-mères.
Deux.
Je suis gâtée. Hein.
Sorina.
Elle fait à manger là, dans la caravane derrière.
Oui, c'est ma maman et c'est ma tante. C'est eux qui font à manger pour 30 personnes tous les jours.
30?
Voilà, c'est nos enfants, nos petits-enfants, c'est mes cousins, ma mère, ma tante. Voilà, mes cousins aussi, ce sont les musiciens. On est tous ensemble. De toute façon, tout ce qu'on fait, on fait ensemble. Alors. Moi, je me sens bien. Je ferme juste la porte de la caravane quand je dois appeler des gens. Ou pas.
Avec mes 5 filles, je n'ai que des belles choses. Je n'ai pas de dentiste, je n'ai pas d'avocat. J'ai une trapéziste, une funambule, une contorsionniste, une jongleuse, une acrobate. Je n'ai que des belles choses. Ah, c'est super, hein. Où on se met pour manger?
On se met dedans? Pour moi, je crois que toute la terre, elle est à moi et je n'ai pas de pays. Donc c'est très bien comme ça. Et là, donc aujourd'hui, tu vois, j'ai 5 enfants grâce à Dieu et 6 petits-enfants. Je suis très riche. Déjà ça.
Delia, tu la laisses manger. Asseyez-vous, Charlotte.
C'est du gigot d'agneau extra. Là, je te fais de la café, tu sais, turc. Ça cuit avec le café, l'eau et tu vois, et le sucre en même temps. C'est délicieux.
Vous l'avez rencontré comment, votre mari?
Ah, je l'ai rencontré sur le campement tzigane de Nanterre. En 90, il y avait 3000 caravanes.
Vous viviez là-bas?
Oui, j'ai vécu là-bas. Voilà, à cette époque, c'était vraiment très dur pour moi parce que j'avais pas de papiers, j'avais plein d'expulsions, des conduites à la frontière. Mais bon, j'essayais de résister comme je pouvais. J'ai chanté dans la rue et j'ai mendié aussi un petit peu.
Est-ce que vous veniez d'où?
En fait, j'ai quitté la Roumanie quand j'ai eu 15 ans et demi. Ceaușescu y vivait encore. Déjà à l'époque, ça n'a pas changé grand-chose encore. Il y avait un tel racisme, il y avait une telle inégalité, il y avait une telle discrimination. Et il y avait, moi je les appelle mes frères des misères, donc des tziganes, qui se faisaient tuer dans les postes de police, qui se faisaient tuer dans la rue pour rien du tout. Et personne ne soulevait le problème. Pour eux, c'était comme si un chien venait de mourir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit, je ne veux pas mourir dans ce pays-là. Je m'en vais. Et je me suis enfouie sans que mes parents ils le savent. J'avais un petit peu des bijoux, un petit peu d'argent. J'ai pris un petit peu aussi les bijoux de ma maman. Et je suis partie clandestin avec 30 personnes. Et c'était vraiment très dur de partir de là-bas. Parce que dans ce temps-là, il y avait la police qu'on appelait Securitate. Et s'ils voyaient rien qu'un oiseau dépassait la frontière, ils le tuaient. Donc à un moment donné, on ne pouvait plus passer avec la voiture. Et j'étais obligée de passer la Danube à la nage pour arriver en Autriche. Mais voilà, il fallait le faire vraiment pour sauver sa peau et sa vie. Et je le fais. Mais finalement, je me rends compte que voilà, j'ai acquis des sacrées valises parce que je suis devenue très endurante, je veux dire, combattante aussi. Mais je suis folle aussi, hein. Il faut le dire, hein. Un peu beaucoup. Hein.
Je veux la manger.
Le bébé, on va lui manger un pied. Le bébé.
Ah ouais, et tout.
Tiens, ce pied-là, je vais lui manger, moi, le pied.
Tiens, un peu.
Non, elle veut pas.
Si, elle veut.
Moi, elle me veut pas.
Elle veut avec toi.
Tiens, donne à sa tante, là.
Yo, Mikey, moi.
Vous êtes installé ici depuis quand? On est dans le 16e. C'est le Square Parodie. C'est entre la porte Maillot et la porte Dauphine, quoi, en gros.
Oui, c'est ça. On est installé depuis 2 ans. Mais la population ici, une certaine des populations, elles sont très hostiles que le cirque soit là. Et il y a 5 associations qui luttent vraiment. Ils ne sont pas fatigués. Hein.
5 associations de riverains, voilà, qui se battent pour vous faire partir, voilà.
Ils disent qu'on dégrade l'image du 16e arrondissement, qu'on a mangé tous les chats du quartier.
Ils disent que vous avez mangé les chats du quartier.
Ah oui, voilà. Mais bon, c'est de la bêtise, voilà. J'ai tellement de papiers qu'ils ont fait contre nous pour nous expulser. J'ai 60 kilos de papiers et je les ai mis dans le frigo de ma caravane, Charlotte. Je les ai mis au frais. Hein.
C'est quoi comme papier? C'est des pétitions des...
Oui, c'est des pétitions, c'est des procès interminables. Avec toute une armée des avocats qu'ils ont pour nous faire partir. On est enfermés avec une palissade. À peine on voit qu'il y a un cirque pour qu'on ne les dérange pas. On n'a pas des animaux. On ne fait pas de bruit. Le chapiteau est tout petit. À peine tu le vois, même quand tu rentres, il n'y a rien qui peut gêner. Eh bien, ils disent qu'il faut qu'on parte. Ils ont mis le feu au branchement internet, téléphonique. Ils ont coupé les câbles. On a eu des manifestations des groupuscules fascistes. C'était des centaines d'hommes et de femmes qui criaient « mort aux tziganes, mort aux roms ». Voilà, ça a duré pendant un moment. Là, j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu. Parce que voilà, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des mendiants. Et on défend un art, une culture, un métier. Et la culture, voilà, c'est sacré quand même. En plus, notre culture, elle est très sensible. Et quand elle aura disparu, parce qu'on est menacé de disparaître, l'humanité, elle aurait encore perdu un petit bout de son humanité. Vous savez, comme les abeilles. Nous sommes comme les abeilles. On dit souvent chez nous, lève tes yeux et regarde le ciel. Et tant que tu es sous le ciel, ça veut dire que tu es en liberté. Tu vois les étoiles, Tu vois ces couleurs. Tu vois le soleil, tu vois la lune, tu es en liberté. Et aussi, c'est la maison de Dieu, le ciel. C'est pour ça que nous, on prend le temps comme il vient. Aujourd'hui, c'est comme ça, on verra demain. Demain, Dieu peut-être va changer les choses, ça va être mieux. On prend les jours comme ils viennent, en essayant de les rendre belles. On essaye.
Boşların rolalen Gülde ben çayalen çagalen Akayayı romanı gibi Calem 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 Lungun nedirin
peut-être donner la patte. C'est même pas sûr. Piki, attention, ça va être à nous de jouer. Tu vas donner la patte à papa. Attention, si tu travailles mal, perdeur. Alors là, il est là comme ça. Hein. Vous oubliez. Attention. Tu donnes la papa. Oui, la
donnée. Alexandre. Viens, Alexandre.
Vous allez pouvoir passer?
Ouais, on va se faufiler entre une remorque et une voiture. C'est le fauve qui garde l'entrée du chapiteau?
Oui, si on veut, oui. Donc le chapiteau est là, il est tout petit, il mesure 20 mètres.
Il est rouge?
Oui, tout est rouge. Et bien, du coup, c'est très chaleureux.
Il y a les gradins tout autour?
Oui, mais vous voyez, il n'est pas grand. Hein. Vous savez qu'il y a une tendance aujourd'hui, les cirques ont des chapiteaux, ben, on dirait des hangars pour avions. Nous, on est à l'opposé de ça. Les cirques usines, c'est pas pour nous. Et du coup, tout le monde dit qu'on est le cirque le plus poétique. Ce qui est une belle appellation. Regardez, vous allez voir, on voit encore un peu mieux. Vous allez voir.
Ah ouais, tout en haut des gradins.
On a une meilleure vision, là.
C'est beau.
Ah, c'est pas mal comme ça. Hein. Et il y a quand même 500 places.
Ah oui, quand même.
On dirait pas, mais ils y sont. La piste est petite, c'est une des raisons aussi.
Il est né quand alors ce cirque, le cirque romanesque?
Oh, ça fait je crois 22 ans qu'on a commencé. Par contre, moi je suis né dans un cirque. Mes parents avaient un grand cirque. Je ne prononce jamais leur nom.
Je peux le dire moi?
Oh, ne le dites pas.
Bon, je le dis à demi-mot pour qu'on sache de quoi on parle. C'est le cirque Bouglione.
Oui. Et donc, voilà, moi j'ai voulu que ça reste quelque chose d'humain, quoi. On n'est pas parti sur des trucs grandioses.
Comment il est né, le cirque Manès?
Il est né d'une bizarrerie quand même. J'avais une petite fille, j'étais marié avec une gitane espagnole. Et puis, on m'a volé ma fille.
Qui ?
Je ne sais pas. C'est une histoire assez douloureuse. Et paraît-il... Alors moi, j'avais un projet de cirque avec le poète Jean Genet.
Qui était un ami à vous ?
Oui. Et puis quand j'ai vu qu'on allait avoir le financement, j'ai pas voulu me lancer. J'ai laissé tomber et puis le cirque donc ne s'est pas fait. Et puis à l'époque, je faisais de la musique baroque. Je joue du luth baroque. Et quand on m'a volé ma fille, paraît-il, je serais resté assis une année sur une chaise. Pratiquement sans dire un mot. Enfin, j'allais très mal. Et tout le monde me disait, mais t'avais ce projet de cirque, fais-le. Au moins, ça va te changer les idées. Le cirque, c'est un métier un peu infernal. Si on veut, il n'y a pas d'arrêt. On peut travailler jour et nuit dans un cirque. Donc, je ne pouvais pas broyer du noir et faire du cirque. Et c'est comme ça que je suis revenu au cirque.
Et votre fille, vous l'avez retrouvée depuis ?
Non. Non. Moi, je dis toujours, je veux qu'on reste un petit cirque. Il y a de gros avantages à rester un petit cirque, c'est que nous ne serons jamais riches. Et ça, c'est bien. Je vais vous dire un proverbe tzigane. Ne te moque jamais des riches, ça pourrait arriver. Il est pas mal, celui-là. Hein ? Dans les tribus tziganes, celles qui sont encore dans le nomadisme, en tout cas, la réussite sociale n'existe pas. Ça n'existe pas, s'enrichir, ça ne compte pas. Faire de la politique, je me souviens que mon père disait le terrain préféré du diable, c'est la politique. D'ailleurs, nous, les Tziganes, nous savons que on sait qu'on est les derniers. On le sait. En fait, toutes les cultures minoritaires sont condamnées. C'est terrible. Regardez en France, par exemple. On peut voyager avec nos caravanes, mais on ne peut pas s'arrêter. Alors, comment on fait ?
Il doit y avoir des aires d'accueil, normalement, c'est obligatoire.
Mais les aires d'accueil, mais c'est un désastre. Il y a quatre murs, on nous met au milieu, on est entassés les uns contre les autres. C'est un désastre, et puis on n'en veut pas, en fait. Nous, ce qu'on veut, on voit un terrain vague, les maisons sont très loin, donc on ne dérange personne, ben on y reste. Et au nom de l'hygiène, on nous fait partir. Mais nous, on ne demande rien. Vous entendez le chat ? On dirait un enfant, hein ? Non, on est conscient qu'on est les derniers. Quand mes filles seront âgées, les tribus de Tziganes n'existeront plus.
Vous pensez ?
Ah oui, je le pense. Ah oui, vraiment, on est les derniers. Nous, par exemple, on brûle tout ce qui a appartenu aux derniers vivants. L'héritage n'existe pas dans les tribus de Tziganes. Bon, ben, dans la sédentarisation, vous allez brûler votre maison ? Ben, vous ne pouvez pas. Vous voyez ? Après, il y a les testaments, ça n'existe pas chez nous, tout ça. Et on ne peut pas divorcer chez nous. Le divorce est interdit. Interdit. Les femmes ne se séparent jamais de leur mari. Par contre, j'ai connu deux gars qui ont cassé leur mariage. Un a été banni de la tribu, et l'autre, il a été mis à mort.
Mis à mort ?
Oui, par les deux familles. Ils se sont mis d'accord, ils l'ont tué. Alors, c'est terrible. Moi, je suis contre la peine de mort, jamais je tuerai quelqu'un. Mais il faut savoir ça. Dans les tribus tziganes, le divorce est absolument interdit.
Vous y êtes allé à l'école ou ?
Alors moi, j'ai fait 3 écoles en 6 mois, quand j'avais 8 ans. J'ai fait 3 écoles, je ne me suis jamais assis sur le banc. J'attendais qu'on me vire, et puis on m'a viré 3 fois. Et à la troisième, mon père a dit « bon, ben, c'est bon ». On a compris. On arrête. J'ai appris à lire et à écrire. J'étais amoureux. J'avais 20 ans. Et elle a eu la gentillesse de m'apprendre à lire et à écrire. Et ça m'a pris 3 mois.
D'apprendre à lire et à écrire ?
Oui, 3 mois. Il ne faut pas 15 ans pour apprendre à lire et à écrire. Et aujourd'hui, je publie des poèmes chez Gallimard. Et je fais de la musique baroque. Je ne fais pas que du cirque.
C'est pas très tzigane, ça, la musique baroque ?
Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais c'est la musique que j'aime.
Comment vous avez découvert la musique baroque ?
Ben, quand je faisais mon numéro dans la rue, un jour j'ai vu passer des luthistes devant moi. Ils marchaient en jouant. Cette musique m'a semblé tellement belle. C'est de la musique de la Renaissance. Très très jolie. Le lendemain, je me suis inscrit au conservatoire. Le lendemain. J'ai dit, c'est ça que je veux faire.
C'était quand ça ?
Oh, il y a quelques années déjà.
Vous avez dit, c'était quand vous faisiez votre numéro dans la rue ?
Oui, parce que quand j'ai quitté ma famille, qui a un grand cirque, je voulais plus travailler avec eux. Et je trouvais que c'était trop grand, trop... Et donc, j'avais un numéro d'acrobatie et d'équilibre. Et je l'ai fait dans la rue pendant des années.
Vous viviez où alors ?
J'avais une petite caravane. Et j'allais d'un campement tzigane à un autre. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Delia.
C'était à Nanterre ?
C'était à Nanterre, sur le campement tzigane de Nanterre, oui. Moi, j'avais 40 ans. Elle en avait 20. Mais elle avait 3 enfants. Son mari l'avait abandonnée. C'est une rareté. Il avait disparu, on l'a plus revu. Elle avait 3 petits-enfants, du coup, que j'ai adoptés. Et après, j'ai fait d'autres enfants avec elle. Je me souviens très bien qu'on était dans une petite caravane. Il n'y avait pas de lumière, très peu. Et puis elle a sorti une croix avec un Christ cloué dessus. Elle a mis la croix contre sa poitrine nue en regardant le ciel et j'ai dit, il faut que je lui fasse un enfant. Voilà comment on a fait le premier enfant.
Regardez les belles, là. Hein.
C'est Delia ?
Oui, c'est Delia. Ouais.
C'est une photo qui date de quand ?
Non, elle est pas vieille, elle a 1 an la photo.
Ah ouais ?
Elle est belle, hein ?
Oh, on dirait une jeune fille de 16 ans.
Ah bah, tiens.
Bon, est-ce qu'on va pouvoir reprendre le boulot ?
Vous allez faire quoi, là ?
Ah, faut qu'on bouge les caravanes encore.
Faut bouger les caravanes ? Sont toutes vertes les caravanes, c'est étonnant.
Ben on l'a fait pour le parc, pour pas faire fête foraine. Puis en fait ça sert à rien quoi. Ils nous détestent quand même. Je vous laisse, je veux rentrer la voiture.
Vous en prie.
Quand mes filles seront âgées, les tribus de Zigan n'existeront plus.
Pensez.
Ah oui, je le pense. Ah oui, vraiment, on est les derniers.
Lève tes yeux et regarde le ciel. Et tant que tu es sous le ciel, ça veut dire que tu es en liberté. Tu vois les étoiles, tu vois ces couleurs, tu vois le soleil, tu vois la lune, tu es en liberté.
Merci d'être venu.
Et on ne saurait que trop vous recommander d'aller voir le spectacle du cirque Romanès. Si tu me quittes, je me jetterai par la fenêtre de la caravane, qui joue tous les week-ends à 16h et à 20h30, sauf ce soir où le cirque Romanès accueille la troupe Romano Atmo pour une soirée exceptionnelle avec le spectacle Avant nous étions des oiseaux. Vous retrouverez toutes les informations sur la page de Comme un bruit, bien entendu.
C'était Comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous. Si vous êtes près de Bayonne, ça se passe place Paul Bert en ce moment même. Des informations à suivre dans le flash à venir. Laissez-nous vos messages. Abonnez-vous au podcast. Et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Que le bruit court, mot d'ordre, mot dièse, comme un bruit. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.